Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que pour montrer votre soutien au podcast, il vous suffit de vous y abonner via votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas également à nous laisser 5 étoiles et à rejoindre Slice sur ses pages LinkedIn, Facebook et Instagram. Merci beaucoup! Bonjour à tous et bienvenue sur Slice, le podcast qui vous parle de l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'être entourée quotidiennement par des gens tout à fait fascinants. Des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui se sont lancés avec la conviction d'avoir la bonne idée, la motivation, l'envie d'innover qui mèneront leurs entreprises et leurs équipes sur le chemin du succès. L'important, c'est le voyage, semble-t-il, alors ce chemin, il m'intéresse beaucoup. Le résultat de ma curiosité, le voici, c'est Slice, le podcast. On parlera ici de réussite et d'échec, d'innovation, d'industrie, de création et de reprise d'entreprise, et au final, de la vie, tout simplement. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Mélanie Bénard-Croza, la patronne d'Espritcom et la rédactrice en chef de la revue S&D Magazine. Avec elle, nous reviendrons sur son parcours personnel et professionnel, sur ses engagements et sur sa vie de chef d'entreprise. De la Crète à l'Alsace, de Pau à Paris, en passant par l'Asie et l'Afrique, on suivra avec Mélanie les grandes étapes de sa carrière et de sa vie. Son entrée dans l'armée, la création d'Espritcom, le lancement de S&D Magazine et l'animation d'une multitude d'événements liés à la défense et à la sécurité. On parlera également de sa vie d'autrice et de son engagement auprès de diverses associations en faveur de l'éducation des enfants. Avant de vous laisser avec l'épisode, je souhaitais féliciter chaleureusement Mélanie qui vient d'être nommée présidente de The International Digital Peace Fund, une fondation qui œuvre en faveur de la cyberpaix. Vaste programme, bon courage Mélanie. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mélanie.
Bonjour Marjolaine.
Merci beaucoup de me recevoir à Paris dans les locaux de ton entreprise, donc de Espritcom et de la revue S&D Magazine. Donc comme tu le sais, j'ai une petite question traditionnelle pour commencer tous mes épisodes de Slice. J'aurais aimé savoir ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petite.
Alors quand j'étais petite, j'avais deux voix qui me plaisaient.
C'est bien.
Ce qui décrit un peu ma personnalité aussi, qu'on va découvrir un peu tout à l'heure. Je voulais être psychologue scolaire, donc accompagner les enfants.
Mais à partir de quel âge, c'est la psychologue scolaire?
J'étais petite, hein, j'avais 5-6 ans quand je voulais être psychologue scolaire. Et le deuxième endroit où je passais beaucoup de temps, c'était la bibliothèque et les archives, parce que j'adorais les livres.
Okay.
Donc, ça décrit un petit peu la voie que j'ai suivie aujourd'hui.
D'accord. Donc, tu as psychologue scolaire, donc plutôt de la médecine des maths, et bibliothécaire plutôt littéraire. Du coup, on se décide sur quoi quand ça arrive le moment de faire un choix au collège ou au lycée pour les orientations?
Alors, j'ai privilégié la voie de la littérature,
ouais,
et donc du journalisme, de l'écriture et de la rédaction, ce qui,
ouais,
est aujourd'hui le cœur de mon métier. Néanmoins, la psychologie, c'était pas tant les maths et la science, c'était surtout des sciences humaines, en fait.
Ouais.
Et de rapport aux autres, savoir les comprendre, savoir... avoir aussi de l'empathie, essayer de les accompagner. Et ça, je pense que c'est non seulement quelque chose d'important dans la vie du, mm-hmm, quotidien, mais qui te sert beaucoup dans ta vie professionnelle.
Mais cette conscience de l'autre, etc., enfin, dans ta vie de petite fille, tu avais déjà été en relation avec des gens qui faisaient ce métier ou
Ça vient de mon éducation.
D'accord.
Et de mon univers familial.
D'accord.
Où y a toujours eu ces deux côtés, un côté très tourné vers l'autre,
ouais,
et puis un côté très business challenge.
D'accord.
Donc j'ai bénéficié des deux et puis je crois que je l'ai bien cultivé après.
D'accord. Donc arrivé au lycée, donc collège-lycée, tu choisis la littérature. Donc dans ta tête, tu veux devenir journaliste.
C'était mon esprit, oui. C'était,
ouais,
c'était cette voie qui m'intéressait à la fois. C'est s'intéresser aux autres, c'est s'intéresser à la culture, c'est faire des recherches, c'est apprendre, c'est comprendre et ensuite c'est retransmettre. Et tout ça à travers soit l'écrit, donc dans la partie presse écrite,
ouais,
soit ensuite à l'oral, lors de conférences, lors de débats, lors d'interviews. Et donc je pense qu'en fait, dans cette voie, j'ai trouvé un équilibre qui,
ouais,
me permettait d'associer les différentes appétences que j'avais à ces sujets, à ces thématiques, et je les ai regroupées dans une même vie.
Et tu avais un sujet de prédilection ? Genre, est-ce que tu voulais faire journaliste d'investigation sur des enquêtes criminelles ou, je sais pas moi, journaliste de voyage ? Enfin, tu vois,
ce qui me plaisait beaucoup, c'était effectivement tout ce qui était voyage, culture.
Okay.
Ça, c'était vraiment... Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis partie faire mes études à l'étranger, que j'ai vécu à l'étranger, parce que ce côté multiculturel et de découvrir, de s'intéresser aux autres, c'est une richesse en soi que j'ai beaucoup cultivée. Donc, ça me plaisait beaucoup. Pour en revenir à ce que je fais aujourd'hui, et c'est donc un autre élément de réponse, je n'étais pas du tout focalisée sur les sujets de sécurité,
d'accord,
de défense ou même de géopolitique. C'était des mondes qui étaient plutôt éloignés de ce que je traitais au quotidien. C'est le fait de rencontres, de rencontres
qui t'ont
de
mené,
vie qui m'ont mené à ces sujets-là aujourd'hui.
Ok, donc tu passes ton bac donc littéraire et puis ensuite tu rentres à l'Institut des professions des affaires et du commerce. Donc on est dans quelle ville là ?
On est à Annecy.
À Annecy, d'accord.
Une ville magnifique.
Oui, très belle.
Très belle, où on peut faire beaucoup de sport, où il y a un rapport à la nature qui est, la proximité avec la Suisse aussi, qui était très intéressante d'un point de vue des études et du business, puisque c'était des modèles quand même très intéressants quand on pouvait se rendre à Genève. C'est un institut, donc une école de commerce privée, où j'ai pu combiner l'approche de la communication, du marketing, et en parallèle passer un diplôme de journaliste, parce que là encore une fois, comme je ne pouvais pas faire de choix, j'ai dit je vais faire tout en même temps.
Tu fais les deux, donc et du commerce et du journalisme, communication et un peu de marketing, ou c'est quand tu arrives à l'université de Glasgow déjà, pourquoi l'Écosse ?
Alors l'Écosse, c'est en fait l'institut dans lequel j'étais à Annecy, qui avait donc des échanges, les partenariats Erasmus que l'on connaît plus ou moins tous, et donc qui nous ont proposé cette année en Écosse. Et comme moi j'étais très, très tournée vers l'international, c'est vraiment quelque chose que je souhaitais faire. J'avais eu la chance de beaucoup voyager avant, j'avais envie de vivre l'expérience du voyage différemment, et donc de passer une année en immersion.
Toute seule aussi, non ?
Alors, on était deux partir.
Deux,
une amie avec qui on est toujours très, très proche.
Bonjour à elle.
Voilà, on la salue. Et comme quoi, on crée des amitiés très fortes aussi qui perdurent. Et donc, on est parti à deux. Ça a été une très belle expérience aussi. Donc, ce n'était pas un choix de destination volontaire, mais ça a été une très, très belle année.
Une très, très belle année. Et donc, du coup, tu n'as pas souhaité rester ? Enfin, il fallait absolument que tu reviennes en France, ou tu aurais pu faire le choix de te trouver un job là-bas, je ne sais pas ?
Alors, j'aurais pu. J'étais un peu en mode globe-trotteur quand même.
Ouais,
donc, j'avais envie
bouger.
De découvrir. J'avais envie, voilà, l'option de la vie avec ma valise elle est très très bien. Dès que j'ai approché la fin de l'année scolaire, donc de ma dernière année d'études, juste avant qu'on ait les résultats pour les diplômes, j'ai postulé, et là dans différents pays, hein, donc
d'accord,
c'est vraiment des plateformes
internationales,
et je me suis dit n'importe lequel,
ça
si ça me plaît, j'y vais. Et c'est là où en fait j'ai été contactée par la Grèce pour un job en fait dédié à la communication, au marketing, et s'occuper en fait du développement sur toute la partie du marché français. Et donc, j'ai eu Alors, on était déjà en mode visio à ce moment-là. Et donc, on a fait une visio avec le PDG qui m'a dit « Quand est-ce que vous pouvez être là ?» J'ai dit « Écoutez, tant que je prenne un billet d'avion, après-demain. » Et il s'est dit « Bon, elle est quand même très motivée. »
Elle est motivée.
Ça a l'air intéressant. Et donc, deux jours après, j'arrivais, je me posais à Héraclion en Crète.
En Crète. Ah ouais. Et donc, tu as fait quoi ? Alors, c'était quoi ton boulot ? Alors, j'étais chez Cretean Holidays.
Voilà. En fait, c'est une entreprise, donc c'est le PDG Kostas Badouvas, que je salue aussi, un très grand monsieur qui m'a accueilli comme un membre de sa famille, donc c'est assez quand c'est son premier emploi, ça marque considérablement.
C'était vraiment ton premier emploi
où
tu avais fait, je sais pas, caissière ou garde d'enfants,
fait des petits jobs d'été à la marge, mais là c'était vraiment
le premier emploi
après le diplôme, donc vraiment l'entrée dans la vie active.
Tu commences,
et là j'ai donc qui m'a confié la direction du service communication marketing de son entreprise. Ah ouais. Et là, c'était une aventure formidable parce que déjà, j'étais en Grèce, ce qui est quand même un pays formidable.
Tu connaissais ?
J'y étais allée simplement en vacances.
D'accord.
J'avais beaucoup aimé. Là, ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai été accueillie comme membre vraiment à la fois de leur famille et de leur île, hein, ouais. Vraiment. Une inclusion extraordinaire, j'ai rencontré des gens formidables, une culture que j'affectionne toujours beaucoup,
ouais.
Un métier que j'ai découvert où on m'a laissé beaucoup de liberté, de prise d'initiative.
C'est
donc
une chance,
en termes d'expérience professionnelle,
ouais.
C'était extraordinaire. Et il y avait à peu près une vingtaine de nations qui étaient représentées dans l'entreprise.
Ah oui.
Donc là encore, on était dans un environnement...
Un melting pot de culture, assez génial. Ouais. Et puis tout le monde un peu loin de chez soi, donc je pense que ça rapproche,
exactement.
Ça crée des liens, ouais. De se dire, bon allez, on est tous dans la... Pas dans la même galère, parce que c'était très agréable visiblement,
oui.
Mais on est tous ensemble loin de nos familles, donc autant faire de cette expérience... une richesse,
ça,
un,
ouais.
Plaisir,
il y avait,
etc.
beaucoup de partage, et puis on partageait beaucoup sur nos cultures, sur,
ouais.
Nos pays, sur, donc on apprenait
ça
énormément.
Ça t'a donné encore plus envie de voyager.
Voilà, donc c'est ça, j'ai fait ma petite liste après de comment réaliser mon propre tour du monde, voilà, en ayant une pensée pour tous ceux avec lesquels j'ai travaillé. Mais c'était beaucoup de très très belles rencontres.
Et donc Crétean Holidays, comme son nom l'indique, c'était pour organiser des voyages, des vacances
en fait, c'était vraiment du tourisme. Alors
bah,
beaucoup de tourisme,
okay.
D'affaires,
okay.
Principalement.
D'accord,
et donc,
ouais.
C'est ce qu'on développait.
D'affaires parce que c'est...
En fait, le tourisme d'affaires, c'est-à-dire que c'était des entreprises qui venaient alors soit de France ou d'ailleurs
oui,
beaucoup
sûr.
d'autres pays, et qui venaient soit pour faire de l'incentive,
d'accord.
Soit pour investir.
D'accord.
Investir
monter,
par exemple sur Athènes ou autre, et venir ensuite passer quelques jours sur la Crète et voilà, créer des relations. Donc on était vraiment là pour... organiser tout ça, faciliter sur place les rendez-vous, les découvertes, et associer au business le partage de cette culture grecque qui est quand même le berceau de l'humanité. Quoi.
Ouais. Si vous ne connaissez pas la Grèce, allez-y, hors saison, et je vous conseille Milos. Voilà, je dis ça, je dis rien, c'est mon coup de cœur personnel à moi. Voilà, donc du coup, tu passes 3 ans.
C'est ça.
Donc 3 ans à Héraclion.
Alors, j'ai fait plusieurs villes, mais 3 ans sur l'île de Crète.
Sur, oui. L'île de Crète, ok. Pourquoi ça se termine ?
Alors, c'est peut-être le choix au moment de la maturité, où on se dit, bon, la vie est quand même très sympa,
ouais.
Mais il va bien falloir que je me pose quand même à un moment et que j'essaye de construire quelque chose. Donc ça, c'est le côté très cartésien.
Et tu ne te voyais pas construire ça en Grèce ?
Après, la Grèce, je pense que c'était une étape dans ma vie.
Mmh.
Ça signifiait aussi d'être finalement assez loin, même si ça reste proche.
Oui,
mais
3 heures d'avion.
Loin de la France. Peut-être l'envie de revenir aussi dans mon pays que j'aime beaucoup.
Mmh.
Et donc, ça a été un choix de revenir. Au départ, je suis revenue, pas forcément en me disant que j'allais rester complètement, parce que je n'étais pas fermée,
oui.
Au fait qu'il y ait de nouvelles opportunités qui se présentent dans un
voyage.
Autre pays. Et en fait, il s'avère que lorsque je suis rentrée, que je me suis dit, bon, je vais me poser un mois ou deux et puis,
ouais.
On va voir ce qui
on
se
verra.
Passe. J'avais déposé mon CV sur des sites de recrutement de cadres,
ouais.
Classiques. Et là, j'ai été contactée par le ministère des armées, alors à l'époque,
ouais.
Le ministère de la Défense.
Ouais, oui, c'est ça. Ouais.
Et c'est là où, en fait, qui a enclenché le fait que je reste en France.
D'accord, mais comment ils sont tombés sur... Enfin, toi, tu n'as pas spécifiquement envoyé ton CV au ministère de la Défense.
Non, non. En
fait, c'est eux qui sont tombés,
ouais,
dessus.
Il y avait un peu des chasseurs de têtes.
Ouais.
Et c'est l'époque où ils avaient beaucoup développé les contrats de, enfin les officiers sous contrat.
Ouais.
Donc ils venaient recruter des experts entre guillemets du monde civil pour apporter leurs compétences et leur savoir au sein du ministère. Et donc, ils scrutaient en fait tous les différents sites qui étaient disponibles,
voilà.
À ce moment-là pour trouver des profils qui pouvaient être
matchés
avec leurs besoins dans des domaines. Ben, il y avait du juridique, il y avait de la communication, il y avait des approches aussi dans le médical, la psychologie, etc.
D'accord. Et donc, toi, quand le ministère de la Défense t'appelle, première réaction, tu te dis quoi ?
Alors, j'étais évidemment très surprise à plusieurs titres. Bon, le premier, c'est que moi, je ne viens pas du tout d'un univers sécurité, défense ou autre. Donc, c'était vraiment très, pour moi à la fois spécial, et puis on a toujours eu ce respect de l'autorité quelque part de l'institution, donc militaire qui t'appelle ou la gendarmerie ou la police, tu te dis tiens,
bon, j'ai fait une connerie.
Donc il y a eu déjà cette première réaction, et puis la deuxième très très rapidement, ça a été de me dire mais comment, avec tout mon background purement civil, l'analyse que j'en ai eue, ça a été depuis quand les armées communiquent-elles?
Oui.
Puisque moi j'étais dans ce monde de la communication, de la diffusion de l'information, et je venais de l'étranger, donc j'avais très peu suivi les actualités du monde militaire en France. Très honnêtement, j'étais pas dans cet écosystème-là, donc je suivais pas forcément ce qui se passait sur ces sujets de défense ou de sécurité en France. Et donc ça a été ça ma réaction, ça a été de dire mais depuis quand vous recrutez des profils de communicants, puisque nous l'objectif c'est qu'on parle et généralement vous n'avez pas trop envie de parler de ce que vous faites. Et en fait ça a été à la fois ça a été ma réaction qui est évidemment qui fait sourire, mais en même temps ça a été un déclencheur relationnel très fort avec la personne que j'ai rencontrée qui m'a dit vous êtes vraiment atypique. Je vous le confirme, mon colonel.
C'est moi, bonjour. Et du coup, donc, tu fais ton entretien donc, avec ce colonel et tu signes.
Alors en fait, on a fait d'abord cet entretien donc, à Clermont-Ferrand. Et donc il me dit écoutez, il va falloir passer des tests bien sûr d'aptitude physique et psychologique parce que quand même on rentre pas dans le monde des armées
comme ça
aussi facilement et fort heureusement d'ailleurs. Et donc je suis allée passer des tests et ces examens à Lyon et ensuite entre temps j'avais quand même pris un billet pour le Kenya.
Pas du tout la même
donc
oui, d'accord.
Voilà. Et à la fin de ces examens, ils m'ont dit écoutez, bon, c'est formidable, on a une session qui ouvre à Kouet-Kidian, vous allez intégrer, etc. Et donc je leur ai dit oui, mais comme moi je pars au Kenya, il faudrait que je sache quand est-ce que démarre cette session, parce qu'il faudrait que je prenne un retour, etc. Donc là, ils se sont dit effectivement, elle est vraiment très atypique, elle n'a pas très bien compris qu'elle arrive au ministère des Armées et que. Le mode un peu freestyle, il va falloir corriger quelques petites choses. Donc ça nous a beaucoup fait rire et maintenant quand on en reparle, puisque je suis toujours en lien avec eux, on en sourit vraiment beaucoup et moi la première. Et donc je suis partie au Kenya et je suis rentrée 2 jours avant de rejoindre Kouet-Kidian.
Très bien. Ah, ça, le changement a dû être sympathique.
C'était assez radical.
D'accord. Donc, tu fais ta formation de Kouet-Kidian. C'est là où on forme les officiers, les futurs officiers des armées françaises. C'est juste pour terre, donc à Kouet-Kidian. Comment ça se passe?
Alors, ça s'est bien passé. Au départ, évidemment, ça a demandé beaucoup d'adaptation parce que moi, je ne venais pas de ce monde-là. Ouais. Donc, il a fallu que j'apprenne les codes, que je comprenne un certain nombre de choses parce que dans les armées, il y a des procédures, il y a des appellations particulières, il y a des postures à avoir, etc. Et donc, évidemment, alors, quand je dis moi, c'est l'ensemble de la promotion. Oui. On venait tous du monde civil, donc on était tous... Ouais. Il fallait qu'on réapprenne les codes du nouveau monde dans lequel on entrait. Après, ça a été une expérience vraiment formidable où j'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses, à la fois sur les autres et sur moi-même. Ouais. Et quand j'en parle avec d'autres personnes de la promo avec qui on est toujours en contact aujourd'hui, ça a vraiment, je pense que c'est un passage de vie où on apprend énormément sur soi.
Ok.
Parce qu'on se découvre des forces, on se découvre des compétences qu'on ne soupçonnait pas parce qu'on nous met... dans des situations qui ne sont évidemment pas des zones de confort, bien au contraire. Et donc là, on arrive à tester nos limites. Et c'est là où, en fait, on se découvre des forces et des compétences qu'on ne soupçonne pas parce qu'on n'a jamais été amené à les utiliser ou vraiment à rentrer dedans. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est une rencontre un peu avec soi, quand même.
Ouais. Il y a eu des moments extrêmement difficiles où tu t'es dit « Mais qu'est-ce que je fous là ? Laisse-moi tranquille, je rentre chez moi ou je pars... »
En fait, non. Alors, je me suis blessée. Donc, ça a été compliqué parce que je voulais vraiment aller au bout de l'aventure. Ça, c'est aussi un peu ma personnalité à moi. On lâche pas, on lâche jamais. Donc, j'ai continué. Même si j'étais blessée, j'ai vraiment voulu aller au bout. Donc, il y a ce côté-là qui était difficile parce que je voulais pas que l'aventure s'arrête pour une blessure.
Ouais.
Donc ça a été un point qui a marqué mon passage. Mais encore une fois, comme j'ai pas lâché... ça n'a pas entaché l'expérience. Me dire pourquoi je suis là, non. Il y a eu des moments qui étaient difficiles parce que physiquement, c'était éprouvant parce qu'ils nous testaient jusqu'au bout et c'est tout à fait normal. En fait, je crois que j'ai beaucoup apprécié d'être mise dans une zone qui n'était pas celle de mon confort habituel. Ouais. Et d'essayer d'aller chercher toujours plus loin, c'est vraiment quelque chose dans lequel vraiment qui m'a beaucoup plu.
D'accord. La formation dure combien de temps ?
Donc là, c'était 3 mois.
3 mois. Et ensuite, dès le début, tu ne sais pas où tu vas être dispatché en France. Comment toi, tu apprends ? Enfin, comment se fait la sélection ? C'est eux qui te disent tu vas aller dans telle unité ou tu, comme un peu à Sciences Po ou à l'ENA, tu sais, t'as un classement et puis tu choisis en fonction de ton classement les premiers postes.
Alors en fait, c'est au moment du recrutement, ils te proposent les postes. D'accord. Qui sont disponibles en D'accord. fonction de ta spécialité, puisque les officiers sous contrat sont recrutés de par leur spécialité. Ouais. Donc ensuite, tu as des postes disponibles dans des unités. Et donc là, on te donne soit les lieux, okay. Soit la typologie, la spécialisation de l'unité. Okay. Et tu fais ton choix en fonction de ça. Donc moi, j'ai choisi l'unité de renseignement. Alors on m'a expliqué où ça se trouvait. Et je leur ai expliqué que pour moi, c'était... Ça n'était pas un critère.
C'était où ?
C'était en Alsace.
D'accord.
Okay. Et je leur ai dit, en revanche, j'aimerais comprendre ce que font chacune de ces unités. Ouais. Puisque ne venant pas du monde de la défense, je ne savais évidemment pas ce que faisait un RT, un régiment du train, un régiment des transmissions, oui. Les paras, etc. Bon, les paras, j'ai bien compris, oui, c'était de l'avion, mais alors après, c'est quoi la mission ? Qu'est-ce qu'on fait derrière ? Et donc, je leur ai dit, expliquez-moi concrètement. Oui. Et donc, cette unité de renseignement, ça a fait tilt. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, on me demande de communiquer dans un régiment de renseignement où par essence on ne parle pas. Ouais. Et je me suis dit, c'est un challenge. Ouais, donc c'est là que je veux aller.
D'accord. Mais donc t'arrives en Alsace et concrètement, c'est quoi ton job ?
Donc moi, je suis officier communication. Ouais. Et donc mon job, c'est de mettre en lumière en fait le travail que font tous les opérateurs de transmission et de renseignement qui sont dans cette unité de guerre électronique.
Ok.
Et là, le côté très compliqué, mais en même temps qui rend la mission exaltante, c'est d'arriver à communiquer sans ne rien dévoiler de tout ce qu'il y a de plus secret, parce que évidemment. Bien, ça crée des difficultés pour les missions des armées parce que ce renseignement va permettre ensuite de décider d'un certain nombre d'opérations à venir, etc. Mm-hmm. Et puis aussi de ne pas mettre en danger la vie des militaires.
C'est ça. Et donc, en fait, tu fais ces communications au profit de qui ? C'est publié sur le site, par exemple, Internet du ministère de la Défense ? C'est géré par la DICOD ou c'est au niveau, toi, de ton régiment ? Ou c'est de la communication interne, ou c'est la destination
Il y a un peu de tous ces éléments. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait une communication faite en interne pour aussi fédérer, pour que chacun sache mieux ce que fait tel et tel.
Se connaissent, voilà. Ouais. C'est combien de personnes, un régiment, environ ?
Alors là, il y avait 1200 personnes sur cette... Oui. Après, ça dépend des unités aussi, évidemment. Donc, il y avait de la com interne, il y avait de la com externe au niveau local et régional, il y avait de la communication auprès des autorités, notamment locales, régionales, etc. Il y avait donc le local au niveau des citoyens, tout simplement, qui sachent ce que font les militaires qui croisent tous les jours. voilà. Et puis, il y avait aussi de la communication, évidemment, qui remontait jusqu'à Paris. Pour relayer des informations sur les sites du ministère, okay. Qui pouvaient être relayés ensuite auprès d'autres organismes de presse nationaux, par exemple, pour un certain nombre de reportages ou des choses comme ça. Et puis en parallèle, moi, je couvrais des opérations, par exemple, des exercices européens, okay. Des choses comme ça. Et donc ensuite, ces reportages-là remontaient à Paris pour diffusion beaucoup plus large.
D'accord. Pour les auditeurs qui ne sauraient pas très bien, qu'est-ce que c'est la guerre électronique ?
Alors, la guerre électronique, en fait, c'est vraiment le monde du renseignement, c'est-à-dire que c'est de l'écoute. Et après, on n'en dira pas plus.
Voilà. Tu restes combien de temps en Alsace ?
Alors, en Alsace, j'ai fait 2 ans.
D'accord.
Oui, 2 ans, 2 ans et demi. Et ensuite, on m'a proposé un poste chez les parachutistes.
D'accord. T'es partie le cœur léger ou quand même...
Je suis partie, en fait, un peu fidèle à moi-même, c'est-à-dire je me suis dit « nouveau challenge ».
D'accord, mais parce que quand tu rentres chez les paras, parce que j'ai une amie d'amis qui était officier de communication, qui maintenant est à l'état-major, etc., mais qui est elle a dû sauter, parce que tu dois faire comme... Tu dois les suivre.
C'est ça.
Du coup, est-ce que tu ne te poses pas la question 5 minutes en te disant...
Moi, j'ai vu le défi. J'ai vu le défi à relever et je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas y aller ? Pourquoi pas le faire ? C'est une expérience de vie qui ne se représentera pas.
Okay.
Donc, j'étais vraiment dans cette idée du challenge, de le relever. Donc, évidemment, ça ne se fait pas comme ça non plus. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, y a le côté « j'ai envie d'y aller, j'ai envie de relever ce défi ». Et puis, il y a le côté où je prépare. C'est-à-dire qu'on doit passer des examens spécifiques, des tests d'aptitude, parce que évidemment c'est pas anodin. Donc, y a toute une préparation physique aussi à avoir, et donc je me suis préparée pour passer des tests, et évidemment la mutation n'était validée que lorsque j'avais
passé tous les tests qui validaient que tu pouvais. Donc tu arrives donc dans cette unité de para, donc là t'es officier communication et relations internationales à ce moment-là.
C'est ça,
on rajoute une nouvelle couche à ton métier. Et donc, du coup, donc, formation, t'apprends à sauter en parachute. Comment ça se passe ? Ça se passe bien ?
Ça se passe bien. Alors, évidemment, l'appréhension est là.
Ouais.
On dit ça se passe bien parce qu'après coup et après quelques années, on ne garde comme toujours que les meilleurs.
Tu continues à faire du parachute ?
Alors, aujourd'hui, j'en fais plus.
Non, d'accord.
J'en fais plus. Après, c'est vrai que c'est plus compliqué dans le monde civil. Alors, quand on vit dans le sud-ouest, on peut faire beaucoup plus facilement. Quand on vit à Paris, c'est un petit peu plus compliqué.
Au-dessus de la Tour Eiffel, bonjour.
Voilà. Alors, ça doit être formidable.
Ah, ça doit être très beau.
Mais j'ai eu le plaisir de le faire sur le Mont-Saint-Michel, et c'était quand même pareil, un très très beau souvenir, assez emblématique. Ça a beaucoup de signification aussi par rapport à notre histoire et à nos aînés, donc c'est toutes ces images en fait qui défilent aussi, et c'est vrai que ça a été un très bon moment. Alors très très compliqué physiquement parce que c'est dur. C'est dur, même si on est prêt physiquement, qu'on s'est entraîné.
T'avais fait quoi comme entraînement ? Parce que t'es toute fine, etc. Et puis on imagine ces mecs sauter avec des énormes sacs. Et on dit, mais comment tu fais pour...
Alors, c'est vrai que quand on a le dorsal, le ventral, et qu'on saute avec une gaine, qu'on a l'équivalent de 35-40 kilos et qu'on en... pèse à peine 10-15 de plus.
C'est ça.
C'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est ce qui fait qu'on le cultive aussi dans le monde des armées, c'est on se dit j'y vais.
Ouais.
J'y vais, je dois y arriver. Et ça fait qu'on ne s'écoute pas et qu'on essaye de donner le meilleur de soi-même et on y va. Parce qu'il y a cet esprit d'équipe, parce qu'il y a ce côté force que donne cette...
Ah bah là, ils sont tous avec toi et on y va, quoi.
Et donc, on y va. Et il y avait d'ailleurs une très belle... Il y avait un très bel esprit d'équipe quand j'ai passé cette formation, où d'ailleurs, il y avait très peu de femmes, évidemment.
Oui.
et parmi les personnes de l'équipe qui passaient, qui passaient ces tests avec moi... des hommes grands, très, on voyait que physiquement il y avait une très belle condition physique, et ils étaient finalement très on voyait dans leur regard ou même dans les mots qu'ils employaient, ils me disaient franchement chapeau. Donc il y avait quelque part ce soutien aussi de leur part, en se disant quand même elle y va. Et c'est vrai que physiquement j'avais pas du tout la même force qu'eux, c'est très clair. Mais j'y suis allée, j'ai pas lâché, et c'est vrai que le premier saut, quand tu passes la porte, c'est quand même quelque chose.
Ouais, tu t'en souviens, il est encore bien vivant.
Je pense que c'est un souvenir que tu n'oublies jamais.
Puis après, il y en a beaucoup en fait sur une carrière.
Et après, il y en a eu.
Tu dois sauter beaucoup.
Après, tu as donc tous les ans, tu dois faire un certain nombre de sauts pour garder ton aptitude, ce qui est tout à fait normal.
Ouais.
Et après, tu peux donc tu as le seuil minimal, et après, tu peux sauter entre guillemets autant de fois qu'il est possible de le faire. Moi, j'étais à l'école des troupes aéroportées à Pau.
D'accord.
Donc, l'avantage, c'est que comme on a dans cette école tous ceux qui passent les tests TAP, donc pour les troupes aéroportées, passent dans cette école, tous les jours, il y a des rotations.
D'accord.
Alors, je dis tous les jours, quand il y a de mauvais temps, des taux d'hydrométrie un peu trop forts, etc., il n'y en a pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très, très, très régulier.
Mm-hmm.
Donc, quand on est à l'étape, on peut beaucoup plus sauter que, par exemple, dans des régiments où forcément c'est
il y a moins de possibilités. Et tu sautais tout seul ou en tandem toujours?
Alors, c'est quand tout... on est sur la forme, enfin, quand on fait notre formation, on saute seul. Ouais. Quand ensuite on fait nos sauts réglementaires, là on saute seul. Après, ouais, on peut faire du tandem ou quand on fait du saut à grande hauteur ou à très grande hauteur, là on peut sauter évidemment avec quelqu'un. Moi, j'ai pu sauter par exemple en tandem avec des Français, avec des Belges, puisqu'on avait la coopération qui était très importante. Et là, c'est sauter d'un hélicoptère ou d'un ballon belge en tandem, etc. C'est aussi des moments très forts dans une carrière.
Ok, donc tu rentres en tant qu'officier communication et relations internationales. Qu'est-ce qui change dans cette nouvelle fonction?
Alors, c'est surtout que ça s'ajoute.
Ouais.
Ça reste complémentaire, mais ça s'ajoute dans le sens où l'idée, c'était qu'on puisse développer des partenariats entre l'école des troupes aéroportées et des écoles qui forment des parachutistes dans d'autres pays.
Dans d'autres pays.
Voilà, donc des coopérations qui étaient soit existantes, soit qui étaient à renforcer, soit des coopérations qui étaient à faire naître, tout simplement. Et donc là, on a travaillé avec la Belgique, on a travaillé avec différents pays sur l'Amérique du Sud.
Ah oui.
Enfin, donc voilà, c'était vraiment aussi de très belles rencontres.
Les paras, c'est des forces spéciales, donc c'était des forces spéciales dans ce cas-là?
Alors, tous les paras
ne sont pas des forces spéciales.
Mais par contre, tous les forces spéciales sont
des paras. Et toi, ton unité, c'était des forces spéciales ou...
Non.
Non, d'accord, ok, d'accord.
C'était vraiment l'école des troupes aéroportées, donc c'est l'école qui forme
tous les officiers
qui sont de facto parachutistes, et ensuite toute la famille parachutiste passe par l'école des troupes aéroportées.
Et donc, du coup, ça veut dire que tu reçois des troupes étrangères, que tu pars aussi en voyage à leur rencontre pour couvrir, aussi faire ton métier de com et en même temps nouer des liens avec... Et donc, tu passes combien de temps là-bas?
Oh, les voyages, c'était épisodique et puis c'était assez court, hein, c'est-à-dire qu'on partait généralement avec l'état-major de l'école, donc il y avait donc à la fois de la communication, des rencontres des militaires sur le terrain et puis des rencontres avec les autorités locales. On partait 4-5 jours, c'était vraiment des petits déplacements, et ensuite quand eux venaient, c'était pareil, c'était sur 4-5 jours.
Ok, et pourtant... Au bout d'un moment, tu décides de partir. Pourquoi tu prends cette décision?
Pourquoi j'ai décidé de partir
De quitter...
Alors, il y a plusieurs choses. C'était pas une vocation.
Ouais.
Et j'avais d'ailleurs été très honnête dès le départ. J'ai un profond respect pour l'ensemble des militaires... des gendarmes et des policiers.
Ouais.
Je trouve que leur engagement est extraordinaire.
Et les pompiers.
Et les pompiers, tout à fait. Tu as raison de le rajouter. Quand je dis que c'était pas une vocation, je veux évidemment pas leur manquer de respect à ce moment-là, parce que eux, pour beaucoup, c'est une vraie vocation.
Mais toi, tu voyais pas ta vie entière.
Voilà. Moi, quand je dis pas vocation, c'est-à-dire que je ne me voyais pas faire une carrière longue. Sous l'uniforme.
D'accord.
En revanche, et donc ça, j'avais été... c'est pour ça que le contrat de 5 ans m'allait très bien.
Ouais.
Et donc, ce que j'ai voulu faire, en revanche, c'est rester connectée avec ce monde-là. Et c'est ce que j'ai fait en quittant et en créant mon entreprise, parce que c'était aussi à la fois le choix de ne pas rester, mais c'était aussi parce que j'avais mon ambition autre, qui était de créer mon entreprise, qui a toujours aussi été quelque chose qui m'a animée. Et donc, dans l'école de commerce que j'ai pu faire, c'était ça aussi qui était intéressant, c'était d'apprendre à créer son entreprise et à la diriger. Et,
c'était
une deuxième étape de vie, quoi.
Tu l'as toujours eu, cette envie? Depuis quand ça remonte, cette envie d'entreprendre, d'avoir ta propre boîte?
C'est né vraiment en école de commerce.
D'accord.
Ouais, vraiment dans cet écosystème.
Et pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Parce que ce n'était pas le temps? Parce qu'il fallait... Je sais pas.
Non, je pense que j'avais besoin de me forger d'autres expériences avant de me lancer dans cette aventure-là, qui est une vraie aventure à proprement parler. et en fait, je pense que si c'était à refaire, je referais exactement le même parcours, parce que tout ce que j'ai pu apprendre à l'étranger, dans le monde privé, les différentes rencontres que j'ai pu faire, le management que j'ai pu voir, découvrir, qui est complètement différent de ce qu'on peut voir en France, par exemple... Et tout ce que j'ai pu apprendre et découvrir au sein des armées, c'est une très, très grande richesse pour aborder l'aventure du monde de l'entreprise.
Ok. Donc, du coup, tu quittes donc cette unité para. Qu'est-ce que tu fais ? Tu te souviens du lendemain ? Enfin, le lendemain, c'est une façon de parler, mais quel bout tu prends le...
Ah, c'est vraiment pas une façon de parler. C'est-à-dire que le 31 janvier, mon contrat se terminait.
D'accord.
Le 1er février, je démarrais l'entreprise.
Donc, ça veut dire que tu avais fait un travail préparatoire.
Exactement.
Pour savoir alors à qui je m'adresse pour créer des trucs tout bêtes. Hein. Forme juridique, qu'est-ce que je veux faire aussi dans cette entreprise. Tu avais déjà tout cerné dans ta tête. Je veux créer une entreprise autour de la com. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette entreprise? Tu avais déjà tout ton plan, plan de match.
C'est ça. Je savais où j'allais. Donc, j'ai préparé pendant on va dire la dernière année, j'ai commencé à vraiment me pencher sur le sujet. Ça s'est accéléré sur les 6 derniers mois. Et donc, le 1er février, l'entreprise était lancée et une nouvelle aventure démarrait.
Donc, cette entreprise s'appelle Espritcom. Donc, tu la lances en 2011. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire avec Espritcom? Quel est le but? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Qu'est-ce que tu veux faire dans cette entreprise?
Eh bien, en fait, c'est ce que je fais aujourd'hui.
Ouais.
C'est-à-dire, en fait, continuer ce que j'ai fait dans le monde du militaire et de ce que j'ai fait dans le monde du privé, mais dédié à la sécurité, la défense et à la géopolitique, parce que c'est des sujets que j'ai appris à comprendre, à connaître, qui m'ont beaucoup passionnée, parce que j'ai beaucoup de personnes aussi qui ont beaucoup partagé avec moi et qui m'ont transmis et qui m'ont donné le goût de ces sujets. J'ai compris aussi tout l'intérêt que représentaient ces sujets pour, quand on parle de sujets régaliens, de tout ce que ça représente pour une nation et puis des enjeux géopolitiques et de ce qui se passe, ça nous permet de comprendre le monde dans lequel on vit
ouais.
Et le monde vers lequel on pourrait tendre et celui vers lequel on souhaiterait aller. Et donc tout ça, c'est des questionnements qui moi m'ont passionnée. Je me suis dit, voilà, il faut que je continue. J'ai identifié aussi au travers des différentes rencontres que j'ai pu faire, qui avaient des besoins
ouais.
d'accompagnement, des besoins, et pour ça, il y avait besoin d'accompagnement, donc de maîtriser la communication, le marketing, les codes, etc., mais de maîtriser doublement les codes du monde militaire, les codes de la sécurité, et d'associer les deux. Je me suis vite rendu compte que c'était pas commun d'associer ces deux dimensions-là. Moi, j'ai eu la chance, à travers la multiplicité de mes expériences, de pouvoir les combiner. J'ai des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Écoutez, vous avez quitté l'institution, mais pas complètement quand même, parce que ça reste une grande famille.
Ouais. »
Et donc, on aimerait continuer à travailler
D'accord,
avec vous.
Ouais.
Et c'est comme ça qu'en fait, c'est enclenché l'idée de créer la revue. Parce
ouais.
qu'il n'y avait pas forcément de revue sécurité. Donc, on s'est dit « Il faut qu'on crée un support. Il faut qu'on crée quelque chose. » Et de là est née l'idée de connecter aussi les gens et de créer des conférences, des colloques. C'est-à-dire que dans la revue, on juxtapose les idées des uns et des autres et des experts et on les fait se rencontrer à travers un support
ouais.
dédié. Et puis l'étape d'après, si on les fait se rencontrer réellement lors d'une conférence où là, on débat ou on échange sur ces sujets.
Quand tu lances Espritcom, comment tu fais pour trouver des premiers clients? Parce que SED, donc le SED Magazine, va être lancé en 2013. Espritcom est lancé en 2011. Pendant 2 ans, comment tu fais pour trouver des clients? Donc, tu viens de le dire, donc c'était des gens de l'institution qui ont souhaité continuer à travailler avec toi, donc tu faisais de la communication pour eux sur des sujets divers et variés. Est-ce que tu t'es adressé peut-être à l'industrie de la défense que tu avais pu rencontrer via les forces, via ton travail dans les différentes unités où tu as travaillé? Comment ça se fait, la recherche de clients, le démarchage un peu, pour dire ça un peu
Alors après, c'est vrai que comme j'avais un profil un peu atypique,
ouais.
il était quelque part facilement visible dans l'écosystème.
Ouais.
Donc il y a des personnes qui sont venues me voir en disant « voilà, on aimerait voir ce que l'on peut faire avec vous,
ouais.
comment on peut travailler avec vous pour nous accompagner sur ces sujets. » Donc, ça a été une première démarche. Je dirais qu'après, j'ai aussi accompagné des chefs d'entreprise qui n'étaient pas dans le monde de la
D'accord,
sécurité
oui.
au départ. Et donc, ça s'est fait... c'est des démarches. C'est aussi du réseau. Quand
oui.
on est connecté à certains écosystèmes, on rencontre des personnes, on dialogue. Et puis, on se dit, ah bah tiens, on pourrait peut-être prendre un café ou déjeuner. Et c'est de là, après, que part de nouveaux rapports entre un prestataire et un futur client.
D'accord, donc avant de lancer SED Magazine, on peut dire que tu faisais du conseil en communication auprès de certaines entreprises ou juste la communication directement. Au-delà du conseil, juste la...
Il y avait les deux. En fait, j'ai fait du conseil sur de la stratégie de communication. Ouais. J'ai déroulé vraiment des feuilles de route de communication avec les équipes dans les entreprises.
Okay.
Donc, c'était du conseil au niveau de la direction, de l'accompagnement au niveau des services de communication. Et puis, j'ai fait de la formation aussi au média training.
D'accord,
oui. Étant aussi journaliste, je formais... À cette maîtrise de l'interview qui est très très peu pratiquée en France en fait. D'ailleurs, même la prise de parole en général est très peu travaillée à l'école, que ce soit des tout petits jusque dans les plus hautes études que l'on peut faire. Et on voit que ça peut représenter une difficulté quand on est un PDG, qu'on commence à être visible et qu'on est amené à s'exprimer régulièrement dans les médias, sur scène ou autre. C'est important de le travailler. Donc, j'accompagnais des dirigeants sur cette dimension-là aussi.
D'accord. Et Espritcom, tu es toute seule ?
Ah non, et heureusement.
C'est ça. Donc, quand tu te lances le 1er février, tu es toute seule dans un bureau ou tu es avec déjà t'as une petite équipe, enfin une petite équipe ou une personne qui vient t'aider qui te...
Alors, au départ, en fait, quand on a créé l'entreprise, on est associé. Donc, je suis associée avec mon père. Donc, c'est
d'accord.
Une entreprise familiale.
Ah, d'accord, ok.
Voilà. Donc au départ, on a travaillé avec des personnes, on va dire des freelance entre guillemets, mais qui étaient des personnes avec qui on avait déjà travaillé,
ouais.
Donc on les connaissait.
On était, ouais.
Voilà, donc c'était des modèles juridiques en fait propres, mais on co-travaillait beaucoup sur les différents sujets. Et puis petit à petit, on a intégré des profils dans l'équipe, surtout avec la naissance de la revue, qui
ouais.
Là exige aussi des profils. Encore une fois, des profils très particuliers parce qu'il faut maîtriser les sujets de défense, de sécurité, de géopolitique et il faut maîtriser l'écriture, la rédaction, avoir une belle plume et ce ne sont pas des profils que l'on trouve très facilement.
Oui, il faut un petit peu de recherche. Et justement, parlons-en donc de SED Magazine. Donc, tu passes 2 ans à faire justement le travail dont on parlait, conseil, communication, etc., média training.
Et écriture de livres.
Eh oui, on peut en parler tout de suite, ouais. Donc, tu travailles notamment avec les éditions Crépin Leblon.
Alain et Laurent Picard, qui sont les deux directeurs et que je salue parce que c'est eux qui ont publié mon premier ouvrage.
D'accord.
Et ça a été une très, très belle rencontre, encore une fois.
Ouais, et comment se fait justement alors cette rencontre ?
Ça a été... ils voulaient... Le régiment dans lequel j'étais avait proposé d'écrire un livre.
Ouais.
Et donc, on a été en contact avec cet éditeur qui était vraiment spécialisé sur ces questions de sécurité et de défense et dans les livres d'art, c'est-à-dire vraiment les beaux livres
oui,
de commémoration. Oui, parce
que Crépin Leblon, ils ont plusieurs... Parution, magazine,
oui.
Donc sur la coutellerie d'art, j'ai
oui.
vu, sur aussi les armes de poing oui. ou les airsoft,
voilà.
Donc reproduction
oui.
d'armes,
oui, oui.
Voilà, et aussi des livres magnifiques, j'en ai
c'est
vu
ça.
Un,
des
costumes
livres.
Du Moyen-Âge, je compte
oui.
Faire
oui.
une acquisition prochainement, j'ai regardé ça hier, là. Ah c'est sympa.
ils ont un très très grand savoir-faire, à la fois sur le fond et à la fois sur la forme, ils ont des équipes en termes de graphisme, la production d'impression est de très très grande qualité, sont vraiment de très belles équipes. Ils ont une assise historique
oui.
sur
ces marchés. C'est l'une des plus vieilles en plus maisons d'édition françaises.
Tout à fait.
J'ai vu donc ouais.
Et donc c'est comme ça que la rencontre s'est faite avec Alain Picard.
Ouais.
Donc moi j'ai écrit le livre pour eux et de là est née encore une fois une très belle aventure humaine
ouais.
parce que on a eu le premier livre.
Ouais.
Et puis s'en est suivi d'autres livres qui leur ont été commandés par d'autres unités donc ils m'ont demandé d'écrire ces ouvrages.
Jusqu'en 2013, ouais.
Voilà, et puis ensuite, les unités dans lesquelles moi j'ai été, forcément j'ai proposé qu'on écrive des livres
parce que...
Est-ce
que ça vous intéresserait ?
je trouvais ça extraordinaire. Et puis pour chaque membre de l'unité, d'avoir le livre dans lequel on parle de sa mission, on parle de ses valeurs, on parle de... je trouve que c'est aussi une très belle reconnaissance pour tout ce que font les militaires dont on ne peut pas toujours parler. Alors évidemment, on parle de ce que l'on peut dans ces livres et il y a des choses qui ne sont pas dites et évidemment, on comprend
oui.
pourquoi. mais c'est vrai que ça a toujours été... Et puis le livre reste, donc c'est aussi un objet
oui.
Dans ce monde numérique dans lequel on vit aujourd'hui. fait que c'est quelque chose que vous pouvez transmettre. Quand on voit un grand-père transmettre à son petit-fils ou à sa petite-fille avec beaucoup d'émotion le livre dans lequel il y a son portrait, où il y a sa mission, où il y a son passage dans un des régiments de France, c'est des moments qui marquent aussi toute une génération. Et donc cette transmission à travers le livre, ça je pense que c'est quelque chose de fort, et donc moi j'étais évidemment très heureuse de pouvoir contribuer à la rédaction de ces ouvrages.
Bah donc si on en parle par exemple en 2010, il y a un livre qui sort donc aux éditions Crépin Leblond, les 75 ans du service de protection des hautes personnalités. Comment ça se passe? Comment tu alors déjà comment on devient, enfin, parce que je suis auteur, donc ça veut dire que tu es ton propre tu es ta propre entreprise. Comment ça se passe, comment on devient auteur? Bon, t'avais quand même déjà des avantages parce que t'étais journaliste. Donc, mais là, c'est un autre exercice, je suppose.
C'est un autre exercice et encore une fois, c'est un autre challenge.
Ouais.
C'est un autre défi à relever. Alors, comme je disais, j'ai été beaucoup entourée et accompagnée des équipes de l'édition, de la maison d'édition Crépin Leblond, parce qu'évidemment, ce n'est pas un travail qu'on fait seul, ça c'est évident. Il y a la plume de l'auteur, mais le travail est vraiment collectif, ça c'est évident. Et donc, alors comment on devient auteur? C'est assez compliqué de le dire. J'ai l'impression d'avoir toujours été auteur, donc c'est là où en fait on se rend compte qu'on oublie les prémices de l'aventure.
Peut-être le jour où tu reçois, c'est le mail où on te dit est-ce que tu veux travailler sur ce projet, et le premier jour où tu te poses, je sais pas, à ton bureau devant ton ordinateur, je ne sais pas comment ça se passe, ou la première fois où tu vas toquer à la porte du régiment, parce qu'on parle du service de protection des hautes personnalités, mais tu as écrit des choses sur le 3e régiment des hussards, sur les paras, sur les drones et l'imagerie de l'armée de terre, etc. Donc je sais pas, peut-être la première fois où tu vas frapper à leur porte en disant alors c'est parti.
En fait je crois que la première chose c'est qu'en fait t'arrives chez eux.
Ouais.
Donc moi j'étais là pour beaucoup écouter, comprendre, et je pense que c'est le premier point de départ, c'est d'arriver non pas en disant je suis auteur, j'ai décidé que nous allions parler de ça et voilà le plan que je vous propose.
Ouais.
Mais c'est de se dire en fait je viens mettre ma plume à votre disposition.
Ouais.
Donc, partagez avec moi tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous pouvez. Et moi, mon devoir, c'est de faire du mieux possible pour le transmettre de la meilleure manière possible à ceux qui vont ensuite le découvrir, qui sont les lecteurs.
Ouais.
Et je pense que c'est... En fait, en tous les cas, moi, ça a été mon approche. Ce qui fait que les gens m'ont ouvert les portes, ont partagé vraiment leur quotidien. D'ailleurs, ils sont généralement très heureux de le faire et très fiers. Parce qu'ils se rendent compte que voilà, ils sont mis à l'honneur, et je pense qu'ils voyaient aussi en même temps l'admiration que j'avais pour tout ce qu'ils faisaient dans chacun des corps de métier que j'ai pu rencontrer. Et donc, encore une fois, est né de très belles relations, et le service de protection des hautes personnalités, le fameux SPHP, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer le directeur de l'époque, qui n'est autre que Jean-Louis Fiamenghi, l'ancien patron du RAID, qui aujourd'hui est directeur sûreté sécurité chez Veolia, et avec qui j'ai gardé de très belles relations.
Ouais.
Et on est toujours beaucoup en contact aujourd'hui, donc des relations qui perdurent. Et ça, je pense que c'est un des éléments qui est caractéristique aussi de cet écosystème. C'est que quand on le voit de l'extérieur, on voit un monde dur, un monde d'hommes, un monde d'uniformes avec des armes, etc. C'est l'image qu'on peut en avoir de l'extérieur. Et en fait, à l'intérieur, c'est beaucoup, beaucoup de bienveillance.
C'est basé où, le service de protection d'autres personnalités? C'est à l'Élysée ou c'est...
Alors, c'est à Beauvau.
C'est à Beauvau, d'accord. Et tu te rappelles, enfin, si tu peux nous en dire plus, comment ça s'est passé, toute ton investigation, et puis après, la partie plus pratique, tu sais, de rédaction
Alors, sur la partie immersion, j'ai complètement intégré les équipes, donc j'ai pu discuter avec eux au départ dans leurs locaux. Après, j'ai pu aller avec eux sur le terrain, donc voir comment ça se passait, l'émission, etc. Parce que c'est important qu'on sente
ce qui se passe, comment ça se passe et comment ça se fait.
Voilà, quand moi j'ai été para précédemment, pour communiquer sur les parachutistes, si on n'est pas soi-même para, c'est un contresens, c'est même un non-sens. Donc c'était essentiel. Là, c'est la même chose. On ne peut pas écrire un livre sur les hélicoptères de combat, sur les drones et l'imagerie, sur le service de protection des hautes personnalités, si on n'a pas soi-même fait la démarche de les accompagner, de comprendre, de percevoir ce qui se passe, la difficulté des missions, cette capacité à être à l'affût de tout et à être en capacité de réagir à toutes les situations possibles, en sachant que vous avez la responsabilité d'une vie. déjà pose quand même le contexte
oui.
De la mission de ces hommes et ces femmes. Et donc voilà, donc je les ai suivis, j'ai eu accès à beaucoup d'informations et de documentation ouais. Qui m'ont permis de vraiment m'imprégner, de retracer l'historique, puisque c'était quand même à l'origine oui. les 75 ans, donc on oui. célébrait quelque chose d'important.
Un anniversaire, voilà.
Et puis c'était l'idée aussi d'ouvrir sur les missions d'aujourd'hui, sur la coopération, puisqu'il y a évidemment ouais. une coopération très forte avec les autres services de protection dans les autres pays. Et puis après, la rédaction, eh bien, c'est toujours cette idée de la page blanche.
Et c'est voilà. exactement ma question de me dire, c'est un gouffre.
Ouais, on est en 2021 et chaque nouveau numéro que je dois sortir, j'ai toujours la page blanche. Et je me dis que c'est un signe un peu comme les artistes sur scène qui ont le trac. Le jour où j'aurai plus cette idée de la page blanche, je crois que ça sera le moment pour moi de raccrocher
ah ouais
mon métier. Et je pense que c'est essentiel de l'avoir toujours. Se dire, voilà, là, tu redémarres un nouveau magazine. Ouais. C'est toujours une nouvelle aventure. Ben, c'est comme le livre. Et puis après, c'est une démarche, c'est presque une mécanique intellectuelle. C'est-à-dire qu'après, quand on est dans le livre, on rassemble toutes nos idées et on se dit, quelle est l'histoire que je veux raconter avec tout ce qu'on m'a transmis. Et puis, d'une fois qu'on a suivi le conducteur de l'histoire qu'on veut raconter... Ben, ça déroule parce que d'une fois que j'ai commencé à écrire, je suis dans mon monde de l'écriture et donc je déroule mon histoire.
D'accord. C'est pas submergent au point où tu laisses tomber parfois.
Ça m'est jamais arrivé.
Ça t'est jamais
pas
arrivé.
Pour l'instant. Après ça peut aussi arriver où il y a des moments où tu as besoin de faire une pause.
Ouais.
C'est-à-dire tu as besoin de prendre du recul pour mieux revenir ouais. dans ton histoire. Donc ça c'est des temps de pause qu'il faut savoir aussi s'imposer. Pour justement reprendre la dynamique, parce que c'est aussi intellectuellement très éprouvant.
Toi, tu fais des pauses.
Ça m'arrive.
Ah ouais, c'est pas très crédible. C'est
rare, mais ça m'arrive.
Dit comme ça, c'est pas crédible du tout. Ok, donc il y a toute ta vie d'auteur donc qui continue. Et puis continue. J'ai vu qu'il y avait aussi le livre Ma blessure secrète aussi, qui parle du stress post-traumatique. Est-ce que tu veux
en
parler?
Oui, en fait, c'est ma blessure de... C'est la blessure de guerre, invisible. Et alors ça n'est pas mon livre, c'est celui de Sylvain Favière.
D'accord.
Que je salue aussi. C'est une très belle personne que j'ai eu beaucoup de joie à accompagner. Parce qu'en fait, Sylvain, je l'ai connu à l'école des troupes aéroportées.
D'accord.
Parce qu'il était infirmier.
Okay.
Il est parti en Afghanistan en mission. Il est revenu d'Afghanistan avec cette blessure invisible. La question qu'on lui a toujours posée, c'est comment s'est passée ta mission? Et la question que je lui ai posée, c'est comment est-ce que vous allez? Et en fait, ça, je l'ai su après. Donc aujourd'hui, je le dis avec beaucoup d'humilité parce qu'en fait, c'est Sylvain qui me l'a dit.
Ouais, lui-même.
Quand il a compris qu'il avait un problème, ce qui a demandé du temps parce que la blessure post-traumatique, alors on en parle de plus en plus,
oui.
mais c'est quelque chose de très, très difficile, surtout pour un militaire qui, la première chose, se dit « je ne suis pas digne de cette institution parce que je suis formée ». Je suis prêt, c'est un engagement et donc c'est pas concevable que je ressente un traumatisme alors que voilà, c'est vraiment, ils ont l'impression de faillir à la mission, enfin en tous les cas dans ce que témoigne Sylvain, c'est un peu ça au départ. Et donc quand il a eu besoin de, donc il a été suivi, il a
oui.
été accompagné par des professionnels hein, médicaux, psychologues,
ouais.
psychiatres, etc. Il a été très bien entouré par l'armée qui l'a beaucoup aidé. Donc ça, c'était important. Il a eu beaucoup de chance aussi. Parce que c'était au début. Hein. On en parlait
ouais.
très peu. Maintenant, on en parle beaucoup plus. Mais avant, c'était assez intimiste comme sujet, voire un peu tabou.
Ouais.
Et donc, quand il a eu besoin d'aller plus loin dans sa thérapie, et donc ça, il a eu besoin de l'écrire pour la partager. Et donc, il est venu me voir. Il m'a dit, Mélanie, j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne, qui m'aide, qui me guide, qui me dans le travail d'écriture, parce que ça n'était pas son métier,
oui.
évidemment. Et ensuite, il avait besoin d'être édité. Et donc, c'est là où moi, je l'ai accompagné. Donc, ça n'est pas mon livre.
Oui.
C'est vraiment un accompagnement que j'ai fait pour Sylvain et lui permettre d'aller au bout de cette étape
oui.
de la thérapie.
Oui.
Et ensuite, alors le livre a été un vrai succès. Déjà un premier succès pour lui
ouais.
parce que ça l'a beaucoup beaucoup aidé et bah, ça
c'est l'essentiel c'est
déjà
en fait, ouais,
c'est la première
victoire.
Des belles réussites
c'est ça.
Ça l'a beaucoup aidé et puis ensuite il a été très bien accueilli donc je pense que ça lui a fait aussi beaucoup de bien de voir que en fait le fait de pouvoir en parler lui permettait d'aider d'autres de ses frères d'armes. Et ça, ça a été très important pour Sylvain, parce que c'est quelqu'un de très altruiste.
Et puis, il est infirmier, donc c'est infirmier, aussi dans le sens de sa mission, non seulement militaire, mais en plus infirmier. Donc, il se rajoute des couches de, de mission.
Et à partir de là, donc, il a fait beaucoup de plateaux télé, beaucoup d'interviews. Ça continue encore aujourd'hui. Et puis, on lui a demandé de beaucoup intervenir dans des régiments, dans des unités, dans toute la France, pour partager son témoignage et faire que ceux qui pouvaient se reconnaître à travers ses mots à lui n'hésitent pas à dire « peut-être que moi aussi j'ai besoin d'aide, peut-être que j'ai besoin d'en parler, peut-être que là j'ai besoin d'aide et que c'est pas une fin en soi et que c'est pas une honte ». Mais que compte tenu de ce qu'ils ont vécu en Afghanistan, et je suis allée en Afghanistan, donc j'ai pu voir les conditions dans lesquelles s'effectuaient les missions. Et donc là, effectivement, je pense que c'est bien. Et aujourd'hui, au sein des armées, beaucoup, beaucoup est fait pour les accompagner sur ces sujets de stress post-trauma. Et ça, c'est une vraie avancée pour les armées françaises.
Et puis, au-delà de ça, je fais référence à ça parce que j'ai reçu Emmanuel Kiva, donc le patron de l'AID. On a parlé des grandes orientations stratégiques aussi dans l'innovation, dans les innovations pour le ministère des armées et pour les forces armées. La santé du combattant, c'est quand même un chapitre entier des orientations stratégiques. Non pas que c'était pas important avant, mais je veux dire, c'est vraiment la mise à l'ordre du jour de notre politique de défense française. Donc, c'est vraiment un sujet où on cherche de l'innovation pour améliorer le traitement des blessures physiques, mais aussi des blessures psychologiques, des traitements pour justement aider à surpasser le stress post-traumatique. Voilà, donc là, sur ce livre-là, tu es éditrice.
Donc là, j'ai été éditrice, tout à fait.
Ouais. Et ça, c'est un nouveau métier, du coup. Comment tu...
En fait, c'est pas tant un nouveau métier, parce que quand on fait de la presse, les magazines, on édite. Donc après, c'est simplement avoir des prestataires en termes de production et d'impression qui soient... on va dire soit multicarte, soit qu'il soit spécialisé, donc il t'en faut plusieurs, et que tu publies un livre. Donc là, le livre de Sylvain, c'est un livre de témoignage. Ouais. Donc on est sur un format A5 en dos carré collé, quelque chose d'assez classique qui ressemble au roman que vous achetez en librairie. Quand on est sur du livre d'art, on est sur une autre technique, donc ça demande d'autres spécifications et d'autres approches. Mais là, on s'appuie sur des professionnels de l'impression, de l'imprimerie, qui maîtrisent complètement ces sujets, des livres d'art qui sont cousus à la main. Bon, évidemment, c'est
autre
métier,
chose.
Et c'est un métier qui se perd d'ailleurs beaucoup.
Ouais. Bah justement, de toute façon, sur Slice, je ne sais pas quand est-ce que ton épisode va sortir, mais j'ai reçu François Andrieux de la maison Tiber Édition, justement sur des beaux livres, des classiques de la littérature française, anglaise et peut-être américaine, qui justement fait des beaux livres made in France, imprimés en région Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Donc voilà, on fera une petite immersion dans le monde de l'édition de beaux livres avec Slice en août. Voilà. On parlait de ton métier d'auteur, donc avec les livres pour les 75 ans du service de protection des hautes personnalités, sur les régiments du train, etc. Et puis il y a aussi, toi, une cause qui te tient particulièrement à cœur. Et est-ce que tu pourrais me parler du livre que tu as publié en 2015 qui s'appelle, je crois, « J'aime mon école ».
Tout à fait. Alors effectivement, « J'aime mon école », c'est un autre sujet, mais qui finalement, quand on regarde bien, n'est pas complètement déconnecté des sujets que je traite aujourd'hui dans mon quotidien. « J'aime mon école », en fait, c'est la volonté de réunir plusieurs... au départ, c'est un projet un peu personnel que j'ai pu aborder dans mon cadre professionnel. C'était à la fois le sujet de l'éducation, qui est essentiel, vital aujourd'hui. On vit en France, on a la chance extraordinaire d'avoir un pays formidable où on est libre, où on a accès à l'école, où nos enfants peuvent accéder à la connaissance, à la culture, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde. On a également la chance de vivre dans un pays qui est sûr, dans un pays où on a une hygiène de vie. Alors, on peut toujours critiquer, mais je crois qu'on a une chance extraordinaire et c'est bien de se le rappeler. Et comme j'ai beaucoup voyagé et que j'ai pu rencontrer beaucoup de situations dans des pays évidemment complexes, je l'ai vu au Kosovo, je l'ai vu en Afghanistan, j'ai beaucoup d'acquaintances avec l'Asie, que ce soit la culture ou autre. Et donc, j'ai voulu me rendre en Asie spécialement, que j'avais déjà visité précédemment, où j'avais vu les conditions de vie parfois compliquées. Et je me suis dit, j'ai envie d'accompagner, j'ai envie de donner un petit peu de la chance que moi j'ai eue en vivant ici, en ayant une famille formidable qui m'a ouvert beaucoup de portes et accompagnée. Mm-hmm. Et donc j'ai voulu retransmettre un peu ça à ceux qui avaient moins cette chance.
D'accord.
Et donc je suis partie dans 4 pays en Asie du Sud-Est.
Okay.
Donc j'ai fait la Thaïlande, la Birmanie, le Cambodge et le Vietnam.
Okay.
Et donc dans ces 4 pays, en fait, je suis allée à la rencontre de familles, d'enfants, d'ONG, de personnes qui sont dédiées à ces enfants, qui vivent dans une extrême pauvreté et qui n'ont pas du tout accès à l'école, à l'éducation, parce que l'école est payante,
ouais.
Qu'il faut des uniformes obligatoires. Et quand vous avez des familles qui vivent avec $1 par jour à 8 ou 9, très clairement, le choix, c'est entre est-ce qu'on mange du riz une fois tous les 2 jours ou est-ce qu'on achète un cartable et un uniforme. Très concrètement, c'est compliqué. Les familles n'ont pas été à l'école non plus. Donc, mettre leurs enfants à l'école, ils ne savent pas pourquoi c'est important parce qu'on ne leur a jamais forcément expliqué. Il y a beaucoup d'accompagnateurs sur place qui font cette démarche pour justement pouvoir accompagner et faire que de plus en plus, l'ensemble des enfants puissent accéder à l'école. Et donc, en allant à leur rencontre, j'ai voulu transmettre ensuite leurs témoignages dans ce livre et le communiquer à un maximum de lecteurs pour qu'ils rencontrent ces enfants qui sont extraordinaires, qui sont extraordinaires de joie, d'enthousiasme, de volonté, qui ont des vies parfois très difficiles, des histoires de vie très douloureuses, parce que quand on vit dans le bidonville de Klong Toei en Thaïlande, vous imaginez bien qu'il y a la violence, il y a l'alcoolisme, il y a la drogue, il y a tout ce qui va malheureusement avec ce contexte. Et donc, j'ai rencontré des petites filles qui ont des histoires de vie traumatisantes. Et quand elles vous le racontent, elles vous regardent et ensuite elles sourient. Et elles se disent qu'en fait, la vie va quand même leur apporter de belles choses. Et que si elles ont la chance d'aller à l'école, elles apprendront. Elles ont encore des ambitions. J'ai une petite fille qui me disait qu'elle voulait être ambassadrice de la paix. Donc ça, c'est des choses qui marquent. J'ai rencontré un jeune homme qui m'a dit « je serai président ». Et ça, c'est formidable parce que de voir ces enfants qui peuvent vivre dans des conditions qui sont pour nous atroces,
ouais,
et de les voir malgré tout enthousiastes, positifs, optimistes, volontaires et très engagés. Moi, je les ai vus travailler sous des draps avec des petites lampes torches pour apprendre leurs leçons parce qu'ils voulaient continuer. Moi, j'ai vu des enfants demander à ce que l'école démarre à 5 heures le matin parce qu'ils voulaient avoir plus de cours. Parce que ça démarre très tôt, comme le soleil se lève très tôt. Donc, c'est des choses assez extraordinaires de personnalité. Et donc, l'idée, c'était que ce livre retrace les témoignages de ces enfants, de tous ceux qui les accompagnent en tant qu'adultes et qui sont dévoués à cette cause, et que les ventes du livre permettent de financer des projets éducatifs sur place, donc de financer des écoles, de financer de l'alimentation pour qu'ils puissent se nourrir, des kits d'hygiène pour qu'ils puissent aussi avoir une bonne santé. Et en fait, simplement leur ouvrir la voie pour qu'après, ils tracent leur propre chemin.
Ouais.
Et ce qui est assez impressionnant, c'est à la fois la reconnaissance qu'ils ont, qui est vraiment un don précieux, et cette volonté de se dire « je vais jouer un rôle, moi aussi, à mon tour ». Et donc, ils redonnent énormément. C'est-à-dire que dès lors qu'ils sont impliqués dans le schéma, beaucoup vont donner des cours après, aux plus petits, dans leur village, pour se dire « voilà, on m'a donné cette chance et maintenant, je vais la redonner ». Et donc, en fait, c'est vraiment un cercle vertueux qu'ils s'approprient. Et c'est eux qui transforment très concrètement leur avenir. Donc, c'est de très beaux témoignages, de belles rencontres à travers ce livre. Et je crois que c'est aussi une très belle leçon de vie.
D'accord. Et donc, tu as travaillé pour ça avec Enfants du Mékong ?
Exactement. Ouais. Donc, c'est une association, une ONG qui œuvre beaucoup pour l'éducation des enfants dans différents pays. Alors, d'autres pays que ceux qu'on a couverts. Hein. Moi, je me suis cantonnée à 4 parce que c'était quand même déjà beaucoup, beaucoup de...
C'est sur ton temps libre hors travail ou c'était un des...
Alors, je suis partie pendant un mois
ouais.
sur site. Donc, évidemment, c'était une parenthèse aussi pour le travail. Et voilà, donc une association qui aide, qui permet à travers le parrainage d'enfants de créer du lien avec ses enfants et puis de pouvoir financer beaucoup, beaucoup de projets. Donc, ils ont un site avec beaucoup d'actions sur lequel vous pouvez bien sûr à la fois suivre le formidable travail de toutes ces équipes et puis pourquoi pas, si vous souhaitez parrainer un enfant ou faire un don. Il n'y a pas de petit don parce que chaque action peut sauver un enfant.
Ouais, même un euro, c'est beaucoup dans certaines parties du monde.
Ça peut sauver très clairement une vie parce qu'il ne suffit de pas grand-chose. Ouais. Et eux, saisissent en fait l'opportunité. Donc, il suffit juste de leur tendre la main et puis ils feront le reste derrière.
Tu as des nouvelles ?
J'ai toujours des nouvelles parce que je suis toujours en lien avec les équipes sur place. On voit des enfants s'épanouir, le fait de les voir heureux, d'aller à l'école, fiers avec leur petit cartable, ça c'est la fierté. Pour certains avec leur petit vélo, parce que parfois les écoles sont très loin, ils ont des vélos à disposition. Et puis des enfants qui acquièrent le cycle supérieur ou qui peuvent rentrer ce qu'on pourrait appeler nous le collège ou le lycée. Et la fierté qu'ils ont d'avoir continué, de s'être battus, parce qu'ils sont quelque part aussi un peu seuls. Hein, c'est-à-dire que les parents ne peuvent pas les aider parce que beaucoup sont analphabètes, par exemple, ou illettrés. Donc, ils se battent vraiment. Et de les voir réussir, ou certains qui trouvent leur voie, ou se dire, voilà, je vais faire tel métier, je vais faire telle chose. C'est vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent du terrain.
Ouais. OK. SCD Magazine. Parlons-en. Donc, en 2013, cette revue est lancée. Comment vient l'idée ? Est-ce que dès le début, quand tu lances Spricom, tu te dis, à terme, on va faire une revue sur la sécurité et la défense ? Ou non, c'est venu petit à petit, parce que quand même, passer dans le monde de la presse, je suppose que c'est... Est-ce que tu connaissais ? Parce que peut-être tu éditais des magazines au sein... Je sais qu'il y a des magazines internes, parfois dans la marine, je sais, sur certains, il y a des petites gazettes, des choses comme ça. Mais est-ce que c'était un milieu que tu connaissais, le monde de la presse ?
Alors, c'est un milieu que je connaissais, puisque j'étais journaliste. Je produisais aussi des... Enfin, je contribuais à la production donc des différents magazines sur différents supports pour différentes unités. Donc, c'est un milieu que je connaissais. J'avais envie de produire un magazine, une revue, enfin, je n'avais pas encore défini exactement la typologie. Et puis, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Maintenant, il restait à trouver, évidemment, le sujet.
Ouais.
Et non pas que pour se faire plaisir, même si c'est très agréable, mais qui réponde à un besoin.
Ouais.
Parce que la pérennité de l'activité tient à la réponse aux besoins. Et donc, c'est là où, à travers les rencontres que j'ai faites avec les livres, avec le monde de la sécurité, où j'ai compris qu'en fait, les acteurs ne se connaissaient pas. Les acteurs ne se parlaient quasiment pas.
Okay.
Alors, je reparle de ça, il faut le remettre dans le contexte.
Oui.
On remonte à presque une dizaine d'années.
Oui.
Donc, on a parcouru
beaucoup de chemin.
Aujourd'hui, les acteurs se connaissent, se parlent. On a vraiment brisé les silos, etc. Ça bouge beaucoup. On parle de continuum. On voit des acteurs qui coopèrent, qui co-innovent, qui coproduisent. Il y a une dizaine d'années, c'était quand même pas tout à fait le cas. Je parle pour la sécurité, hein, qui est un univers... beaucoup moins mature que ne l'était la défense, beaucoup moins structurée aussi. Si on se replace dans le contexte de l'histoire, on comprend très vite pourquoi. Donc, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste factuel. On s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas essayer de contribuer, nous, à faire se rapprocher ces acteurs, parce qu'ils sont non seulement brillants, ils ont soit de très bonnes idées, soit de très bonnes perspectives, soit de très bons produits, de solutions, etc. Et donc, ces gens ont besoin de se parler, ont besoin de se connaître. Et on s'est dit, si on crée un support qui permette de connecter ces gens, tous ces gens qui avaient besoin de se connaître parce que c'était la future équipe de France de la sécurité.
Ouais.
Et donc, des acteurs m'ont dit, écoutez, nous, on a besoin, mais on ne sait pas faire. Et c'est un challenge complètement fou parce qu'à l'époque, on revient d'il y a 10 ans... la presse licenciée plutôt à tour de bras et fermée, je ne vais pas dire fermer le banc, mais enfin, on n'était pas loin. Donc, se dire, on lance un titre de presse dans ce contexte-là, ils se sont dit, bon, c'est complètement fou. Et moi, je me suis dit, écoute, un nouveau défi, allons-y.
Allons-y.
Moi, j'aime ça. Donc, Et finalement, bah, c'était un pari pas totalement fou, puisque 2021, on est toujours là.
Ouais, voilà. Donc, comment ça se passe, la mise en place, si on rentre un petit peu dans le comment on fait une revue? Comment le
Alors,
premier numéro?
on a combien? On a 4 heures, 8 heures
Non.
pour. Alors, on va essayer
Le
d'être
premier numéro,
pragmatique.
comment tu décides du sujet? Donc, tu as le thème. On a compris ce que tu veux faire, la mise en relation des acheteurs-vendeurs, prescripteurs, innovateurs, tout ce petit monde de la sécurité. Donc toi, tu es plus un focus sécurité, mais bon, parfois la sécurité à la défense, c'est des vases communicants, on va
Communicant,
dire.
oui.
Le premier numéro.
Bah en fait, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai beaucoup discuté avec les acteurs
Ok.
pour m'imprégner, parce qu'encore une fois, c'est pour eux. C'est-à-dire que ce que je dis tout à l'heure pour le livre, c'est la même chose pour la revue. On n'écrit pas pour soi, on écrit pour être lu. Et on écrit pour essayer de transmettre des
Ouais.
informations. Et alors le Graal, c'est d'apprendre quelque chose à la personne qui va le lire. Ça, c'est le Graal du Graal. Et donc, on s'est dit, quels sont les sujets importants en ce moment? Quels sont les grands sujets sur lesquels il y a des questionnements, sur lesquels il y a des avancées attendues, sur lesquels il y a des besoins d'évolution? Et donc ça impliquait le monde industriel, ça impliquait la réglementation, ça impliquait l'Europe, ça impliquait le politique, ça impliquait tous ces acteurs, en fait. Et donc c'est là où on a discuté tout simplement avec l'ensemble des acteurs et on a identifié les 5-6 sujets
Ouais.
vraiment très porteurs ou sur lesquels il fallait faire quelque chose et donc il y avait des choses à dire. Et on est parti sur ces thématiques-là pour démarrer le premier numéro.
À ce moment-là, vous êtes combien pour SED Esprit Com?
Alors là, on était 3.
3. Et vous vous lancez, vous allez, tu vas sur le terrain, tu rédiges tes articles, tu fais tout de A à Z.
Alors moi, j'ai pas fait tout de A à Z, hein. C'est-à-dire que la maquette, j'avais un graphiste,
D'accord.
voilà, parce que nous, on s'adressait à des décideurs.
D'accord.
Donc, il fallait aussi que la forme et que le support soient à la
Parle.
hauteur du lecteur et du lectorat. Donc évidemment, ça ne pouvait pas être un journal, un papier journal. Voilà, il fallait que ce soit un magazine
Cali.
avec du papier de qualité, donc avec un design de qualité qui donne envie de le lire, qui donne envie de se plonger dedans, qui donne envie de le travailler parce que c'est vraiment l'idée que ce soit un outil de travail aussi, c'est-à-dire qu'on le stabilote, qu'on prenne des notes dessus, que voilà, que ça soit un vrai document de travail quelque part après. Donc moi il y avait un graphiste qui travaille dessus et aujourd'hui c'est Laurence qui porte tous nos sujets graphiques et qui a beaucoup de talent.
D'accord. Tu te souviens, est-ce que avant de lancer le magazine, pour les, tu sais, parce que quand on, enfin moi je suis abonnée à plusieurs revues, pas du tout dans la défense, mais ça on s'en fiche, etc. Mais t'avais déjà des abonnements avant de lancer, ce premier numéro, t'allais l'envoyer pour montrer ce que tu voulais faire, l'ambition de SED Magazine. Comment t'as procédé? Parce qu'il y a aussi cette considération, la pécuniaire, de savoir. Je lance un truc, j'investis de l'argent.
C'est le départ de la vie d'une entreprise, hein.
Ouais.
Donc, au départ, tu prends un risque, tu investis parce que tu y crois. Ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Il
Ouais.
y a des choix qu'on fait qui vont au bout et puis il y a des choses qu'on imaginait super et qui sont soit des bonnes idées mais qui ne vont pas forcément perdurer. Et donc là, ça a été oui un investissement au départ personnel. Ça a été un numéro, ce qu'on appelle un numéro zéro, hein. Donc,
Ouais.
on a lancé et on a attendu les réactions. Alors, elles ont été très positives. Et on s'est dit qu'on tenait quelque chose,
Ouais.
donc il allait falloir vraiment se battre et donner le meilleur pour continuer, parce que chaque numéro est un challenge, chaque
Ouais.
numéro est un défi, même aujourd'hui, des années après, chaque numéro est un défi, et c'est important de le voir comme ça,
C'est ce que j'allais te
pour toujours se
demander.
tirer vers le haut, toujours
Ouais.
se dire on se remet en question, oui on a des compliments, oui on a beaucoup de retours positifs, parce qu'on a la chance d'avoir une communauté avec laquelle on interagit, et donc on sait ce qu'ils en pensent, et ça pour nous c'est des indicateurs
Ouais.
très importants. Mais ça doit toujours être le leitmotiv. Ça doit pas, on ne s'endort pas sur ses lauriers. On se dit, chaque nouveau numéro est 52 pages blanches. Donc, on se doit de donner systématiquement le meilleur de nous-mêmes dans la recherche de l'information, dans la qualité de l'information qu'on va délivrer.
Ça met combien de temps à faire un numéro?
Un numéro, ben nous on en sort un tous les 2 mois, donc quand le numéro est en impression, le suivant est déjà en cours.
Déjà finalisé ou en cours
En
de...
cours de rédaction, c'est-à-dire qu'on a déjà préparé les sommaires et
Ouais.
on lance tous les sujets le jour où il y en a un qui part en print, on lance déjà les sujets du suivant.
D'accord. Et ça, c'est, tu as un conseil de guerre autour de toi ou c'est du brainstorming avec tes équipes pour faire... voilà, c'est ce que j'allais te poser. Ta vie de rédactrice en chef d'un magazine, enfin de patronne et de rédactrice en chef. Est-ce que tu fais la distinction, je suis chef d'entreprise et ensuite, après, pour le magazine, je suis rédactrice en chef? Est-ce qu'il y a une différence ou, en fin de compte, c'est un grand tout
Je pense qu'il y a certaines différences, mais c'est par moment.
D'accord.
C'est-à-dire, dans certaines situations, tu as plutôt telle casquette et dans une autre, plutôt telle autre. Après, je ne fais pas forcément de distinction. Nous, on est une entreprise voilà, à taille humaine, donc il n'y a pas vraiment de... on ne va pas dire qu'il n'y a pas de protocole ou de grande hiérarchie. On n'est pas au ministère des Armées, on est juste chez SCD. Et donc après, c'est vraiment un travail collectif où là, tous les membres de l'équipe partagent leurs idées de sujet, des thèmes qu'ils proposent. Après, c'est un peu systématiquement, c'est pourquoi tu proposes ce sujet, pourquoi il faut en parler, qu'est-ce qui est important, vers quoi tu veux aller. Et à la fin, on fait des choix parce qu'évidemment, on pourrait avoir des Larousse à chaque édition. Tellement il y a de sujets et puis tellement ils sont passionnés. Et ça, c'est formidable. Donc, on est obligé de faire des choix et des arbitrages. C'est là où je reprends ma casquette de rédactrice en chef et où il faut trancher sur des sujets. Quand on fait des interviews, notamment des Women In, où on met les femmes à l'honneur, et c'est une nouvelle rubrique que j'ai voulu créer parce que je pense que c'était très important. Il y a beaucoup de profils.
Ouais.
Alors, on se dit, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes brillantes dans ces thématiques-là. Alors, à la fois sécurité, défense, géopolitique, mais aussi paix, développement, parce que tous ces sujets sont évidemment connexes et connectés. C'est parfois... des choix cornéliens que de devoir choisir tel portrait plutôt que tel autre parce qu'on a envie de mettre à l'honneur toutes ces belles personnalités.
Bien sûr, ouais. Voilà. Ouais. Et vous êtes combien maintenant chez SCD Magazine?
Donc,
Esprit
Com?
6, d'accord. Et qu'en est-il en fait de ce que tu faisais avec Esprit Com? Parce que Esprit Com, c'est la société qui porte SCD Magazine. Est-ce que tu continues à faire du média training, du conseil en communication ou c'est quelque chose qui est un peu...
Alors ça, c'est évidemment beaucoup dilué parce qu'il faut faire des choix.
Ouais.
Et puis, quand on veut faire les choses bien, il faut forcément faire des choix.
Ouais.
Et donc, ça, c'est un peu dilué. En revanche, j'apporte des conseils à des entreprises ou à des chefs d'entreprise qui sont, pour le coup, beaucoup dans la sécurité ou la défense. Le média training, je continue. Là, ça s'est un peu estompé. La situation sanitaire a fait aussi que forcément, c'était plus compliqué. Et puis, on a beaucoup développé la partie des conférences où il y en a beaucoup animé en France, à l'international. Et donc, on imagine bien qu'à la fois, mobiliser des speakers de très bon niveau, préparer des débats, alimenter des sujets qui sont divers et variés, même s'ils sont, il y a toujours un fil conducteur. Ça demande aussi beaucoup de temps. Donc, on a priorisé vraiment sur ces deux activités, la revue SCD, les conférences, les colloques, enfin l'animation de débats. Et puis après, des productions qu'on peut nous demander aussi, des livres blancs.
Voilà, d'accord.
Donc, des productions intellectuelles avec les livres qui continuent.
D'accord. Parlons-en des colloques, etc. Donc, SCD est partenaire des Jeudis de la Sécurité avec Millipol. Rapidement, quel est le principe des Jeudis de la Sécurité?
Alors, les Jeudis de la Sécurité, en fait, c'est quatre rendez-vous qu'on a créés conjointement donc, entre SCD et Millipol Paris. On avait l'idée de chacun créer des colloques qui permettent d'animer la communauté. Et donc, on s'est dit, plutôt que de le faire chacun de
son
notre côté, si on jouait collectif, faisons-le ensemble. C'est la naissance des Jeudis de la Sécurité, donc quatre rendez-vous dans l'année, où on connecte en fait une communauté d'une centaine de décideurs et on les invite à rencontrer des acteurs où on débat pendant globalement ces 2 heures de débat sur scène. Et puis après, on a un temps d'échange plus informel autour d'un cocktail, etc. Alors, on espère qu'on va pouvoir en refaire
de
plus en plus parce que ces derniers temps, nous en avons été largement privés.
C'est bien dommage.
Et donc, sur ces thématiques-là, en juin dernier, on a travaillé sur la lutte contre le terrorisme.
Oui.
Donc, on a Laurent Nunes qui est venu pour nous parler. Alors, il a ouvert la session et il est resté pendant les 2 heures avec nous, ce qui était vraiment un grand honneur et c'était au-delà de ça un grand plaisir de l'avoir avec nous parce que de bénéficier de sa vision, de son expertise, à la fois avec une maîtrise du sujet extraordinaire et une humilité dans l'approche qui font un peu les caractéristiques des grands hommes qu'on peut connaître dans ce monde-là. Ouais. Donc ça a été un débat passionnant avec deux députés qui s'étaient mobilisés, hein, Loïc Kerdran et Jean-Michel Jacques qui étaient avec nous, et puis Véronique Brocard qui est journaliste, qui a écrit le livre Les Sortants, qui a fait une enquête pendant 2 ans dans l'administration pénitentiaire auprès de ces condamnés pour des faits de terrorisme et qui sont amenés à sortir puisqu'horizon 2022, ils seront 250 à avoir quitté les prisons. Et donc l'idée c'est de voir comment l'administration les accompagne, prépare pour justement la non-récidive.
Et puis se réintégrer dans la
Exactement.
Société.
Donc voilà, donc ça c'était un sujet de jeudi de la sécurité. Ouais. On en a eu d'autres beaucoup sur les collectivités territoriales, sur et la cybersécurité,
oui,
sur la e-santé.
J'aime bien poser la question aux chefs d'entreprise que je reçois, ta journée type. Et puis moi, pour m'amuser, j'ai regardé ton actu. Donc les jeudis de la sécurité, comme tu disais, en juin, lutte contre le terrorisme, le colloque sur la protection des sites sensibles avec le JICAT, l'Africa Digital Expo, en début juillet, le forum cyberdéfense et stratégie organisé par le CEIS et le cyber. Donc c'est le commandement de la cyberdéfense du ministère des Armées. On rigolait tout à l'heure sur le fait que tu prends des pauses, c'est faux. C'est quoi ta journée type, enfin, ta semaine type, en fait, tu passes ton temps
Oui, alors mes journées type, je ne sais pas si ça existe, mais fort heureusement parce que je n'aime pas beaucoup la routine.
Ah bah là,
les journées s'enchaînent, ouais. Les semaines aussi, les événements, les articles, ouais, les rencontres, les échanges, les débats. Donc c'est sûr que les journées sont très denses. Mais qu'est-ce qu'elles sont enrichissantes.
Mais au niveau de la pression, on en parlait hors micro. Moi, on m'a proposé, ce que je te disais, on m'a proposé une fois d'intervenir à Sciences Po Paris pour parler de ma vie. Donc, a priori, je la connais et j'étais complètement au bout de ma vie. Je me suis dit, si je dis une bêtise, etc. Mais toi, tu traites tellement de sujets. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a un article qui te sera dédié sur le site de Slice. Donc, c'est super parce qu'il y a toutes les vidéos YouTube où on peut te voir animer des choses, donc, mais sur plein de sujets différents. Comment tu fais pour toujours... Enfin, tu dors la nuit?
Alors, je dors et je dors très bien. Donc, ça, c'est essentiel à l'équilibre. Comment je fais? Je dirais que, déjà, c'est mon métier.
Oui.
Donc, j'ai été formée pour ouais. ça. Je crois que c'est un métier aussi où on apprend et on se remet en question au quotidien. Ouais. Donc, on progresse avec l'expérience, on progresse avec les rencontres que l'on fait, parce que moi, mon métier, en fait, c'est beaucoup de rencontres. Ouais. Et je pense que depuis le début de cet échange, on l'a compris. Mais c'est ce qui fait la richesse du quotidien et la richesse de notre métier. Et puis, je pense que ce qui est important aussi, c'est le travail, la préparation. Je prends souvent l'image des grands champions sportifs, athlétiques, ou quand on voit des danseurs qui font des figures extraordinaires. Et quand on le voit, on a l'impression que c'est d'une simplicité, d'une facilité. Alors, généralement, quand on l'essaye, on a plutôt l'air ridicule. Et on se dit, ça n'a pas l'air quand même si simple que ça pour y parvenir. Et en fait, il travaille 8
ça
heures par jour.
18 ans. Voilà. 8 heures par jour, il t'a bossé le pas chassé.
C'est ça. et donc, évidemment, quand on voit le spectacle final, on se dit, ça a l'air simple et facile ouais. et fluide. Mais parce que derrière, il y a beaucoup de travail. Et donc là, quelque part, je crois que c'est un peu la même chose. C'est qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'implication. Il y a toujours l'idée de, quand je dis, on doit donner le meilleur de nous-mêmes à notre lecteur dans un livre, dans la revue, c'est la même chose. Et pour notre public, c'est pareil. Quand on est sur scène, quand on est devant la caméra et qu'on anime un débat à distance ou autre, l'idée, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes et de donner le meilleur pour que les speakers s'expriment et puissent délivrer leur message au mieux à ceux qui vont regarder ou à ceux qui vont écouter, comme aujourd'hui. Ouais. Et donc, l'idée, je pense, c'est vraiment de... Ouais, c'est systématiquement se remettre en question et je crois qu'il n'y a pas de secret, c'est le travail.
En tant que chef d'entreprise, est-ce que tu as eu peur pour Esprit Com ou pour SCD? Est-ce qu'il y a eu des moments où vraiment tu t'es dit on ne va pas s'en sortir et qu'est-ce que tu as mis en place si c'est arrivé pour sortir la tête de l'eau? Est-ce qu'il y a vraiment eu des alarmes?
Je ne me suis jamais dit on ne va pas y arriver, mais ça c'est un peu ma personnalité.
Le caractère
Il y a eu des moments où on se pose des questions, ça c'est évident, parce que il y a différentes phases. Il y a le lancement, où il y a l'euphorie, ou etc. Il y a toujours la question de se dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va plaire? Et puis, on le lance, on trouve que c'est bien, mais de la prise de décision à se dire, on va investir, on va soutenir cette démarche, il y a encore une autre étape. Donc, il y a toujours ce questionnement. Donc ça, c'est dans les débuts. Après, on voit que petit à petit, les partenaires viennent, les gens viennent nous solliciter et on n'a plus besoin d'aller solliciter nous-mêmes. Donc là, on voit une bascule s'opérer. Moi, je sais que ça, je le dois aussi à mon éducation. Je ne me suis jamais dit « c'est acquis ». Jamais.
Okay.
Et aujourd'hui encore, jamais. C'est systématiquement, chaque année, est un éternel recommencement. Et je pense que c'est ça qui fait que tu gardes la tête froide et que tu es aussi en capacité de réagir quand il peut se poser des questions. Je pense que la période qu'on a connue avec la pandémie nous a aussi obligés à nous remettre en question. De par les expériences que j'ai eues de systématiquement aller vers l'inconnu, relever des défis, se remettre en question, rien n'est acquis, ça veut dire qu'on peut toujours réécrire l'histoire. Et donc, ce n'est pas une fin en soi. Et je pense que ce que j'ai appris au sein des armées, ça a été ça aussi. Garder la tête froide, savoir maîtriser, se dire « ok, là, c'est compliqué ». Donc, soit tu craques, soit tu prends le temps de respirer, tu réfléchis et tu dis qu'est-ce qu'on fait maintenant et on va trouver une solution. Donc, déjà, quand tu es dans cette approche-là, après, je pense qu'il faut être bien entouré parce que ça aide aussi beaucoup. Seul, on ne fait rien, c'est évident. C'est à plusieurs qu'on avance et qu'on gagne. Et donc, il n'y a pas eu de moment difficile, pas pour l'instant, et je touche du bois pour que ça continue. Je remercie au passage tous ceux qui nous accompagnent et nous font confiance depuis plus de 10 ans maintenant, parce que c'est aussi grâce à eux que l'aventure elle continue et qu'elle est aussi belle. Et puis sur la partie confinement, c'est là où moi je me suis quand même posée et je me suis dit là il va se passer quelque chose dans les 2 années. Et donc nous on n'a pas du tout été impactés parce qu'on a continué à travailler massivement. Donc on n'a vraiment pas eu de difficultés, mais j'ai quand même prévu des plans B.
Et au niveau de la communication pour tes partenaires, par exemple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de... J'en parlais avec des amis dans la com qui m'ont dit c'est le premier poste dans les entreprises qui saute. La com et le marketing, tu vois, où bah, forcément c'est confinement, donc on fait des économies. Et toi, au niveau du magazine, tu n'as pas ressenti qu'il y avait...
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Nous, nos partenaires nous font de plus en plus confiance et on développe de nouvelles approches. Et je pense aussi que c'est la proximité qu'on a créée avec eux. Et il y a un mot qui a beaucoup d'importance pour moi, c'est la confiance.
Ouais. Ok. Le prochain magazine sort quand ? SCD.
Alors en fait, comme on aime les défis, on en sort 2.
Ah, très bien, tout va bien. Et quels sont les gros sujets chauds du moment alors ?
Et donc là, on en sort, on est sur la préparation des 2 de la rentrée. Okay. Donc on aura un numéro hors série dédié aux territoires de confiance.
Oui.
Donc les Smart and Safe Cities, tels qu'on a pu les connaître à travers donc à la fois les démarches en France et tout ce qui se passe à l'international sur ces sujets. Donc on a de beaux projets, enfin en tous les cas de beaux articles en préparation. Et on aura le numéro qui va sortir donc de septembre-octobre qui va être dédié à la souveraineté numérique nationale et européenne.
Ok.
Avec une très belle conférence le 21 octobre.
D'accord.
Qui aura lieu pendant Millipol parce qu'on ne cherche pas une équipe qui gagne. Nous, on est très fidèles dans nos relations. Où toutes les thématiques de cette revue seront débattues en live pendant Millipol avec un panel européen de très très bon niveau qui sera présent sur Paris.
Je vois ton petit sourire, ça va être génial. Donc on peut retrouver SCD, donc on peut commander sur le site Esprit.com les numéros de SCD ou sinon en kiosque.
Alors on n'est pas en kiosque parce qu'on est vraiment sur des marches, sur des sujets, un marché de niche, donc on n'est pas en kiosque. Mais en revanche, c'est sur abonnement ou vous pouvez le commander au numéro en ligne sur Internet.
Ok, d'accord. C'est un choix de ne pas faire de kiosque ou c'était trop compliqué
Non, c'est vraiment un choix.
Non, c'est vraiment un choix. D'accord, ok. Tu le sais, on arrive vers la fin de cette interview. J'aime bien poser ces questions parce que le travail, c'est bien et on a compris que toi, tu travaillais beaucoup. Est-ce que tu as du temps ? Qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas ?
Quand je ne travaille pas, alors il y a 3 choses que j'aime beaucoup faire. C'est m'occuper de ma famille.
Ouais, c'est pas mal.
Et passer du temps avec eux parce que c'est une source d'inspiration. Je fais beaucoup de sport.
Ouais.
Donc à la fois du sport où on se défoule et du sport où on rééquilibre les choses avec le yoga. Donc je cours beaucoup, j'aime faire de la boxe.
Et
je fais du yoga aussi, donc ça permet d'avoir un équilibre aussi. Et je lis beaucoup. Et donc là, je reboucle avec le début de ma passion, avec ce que je fais au quotidien, qui est le monde du livre.
Là, en ce moment, tu lis quoi ? T'as des petits conseils à nous donner ? J'aime bien faire ça parce qu'on parle beaucoup de livres. De plus, avant, on parlait beaucoup d'apéro chez Slice. Bon, là, un peu moins, on parle beaucoup de livres. Donc, je saute sur l'occasion. Est-ce que t'as des petits conseils lecture en ce moment ?
Alors, donner des conseils lecture, c'est compliqué parce que chacun a ses propres
goûts. Mais toi, par exemple, pour toi, quel est le livre les livres qui te font vibrer ou ton livre de chevet actuel, qu'est-ce que tu lis en ce moment ?
Alors moi, dans mes livres, dans les livres que j'apprécie, alors je suis assez éclectique, donc ça dépend vraiment des périodes, des moments de l'année ou de ce à quoi j'aspire. J'aime beaucoup Gabriel Garcia Marquez, par exemple.
Okay.
J'aime beaucoup Léni Mirovski.
Okay.
Voilà les typologies de livres. Et puis, il peut m'arriver aussi de lire un Pancol, par exemple, qui est dans un autre style complètement différent, mais qui permet aussi de s'évader. Des romans. Après, je pense que l'essentiel dans la littérature et dans la lecture, c'est de se faire plaisir et de s'évader.
Ouais. J'aime bien poser cette question aussi, la question de la succession. Donc, je sais que tu es maman. J'aime bien demander, est-ce que, par exemple, ton enfant, ton fils, connaît ton métier ? Est-ce que tu fais naître des vocations chez lui ? Est-ce que, parce que tout ça, c'est une histoire de famille aussi avec ton papa. Est-ce que tu as déjà pensé au fait qu'il pouvait... qui pourrait reprendre ? Est-ce qu'il est intéressé par ce type de métier, par les sujets que tu traites ? Parce que si ça se trouve, il va faire un Lagardère, il va dire « la défense est nulle ». J'ai pas envie de bosser dans la défense, moi. Est-ce que...
Alors, il connaît mon métier, parce qu'on en parle beaucoup. Ouais. Et puis, comme il voit que je travaille beaucoup, il a forcément beaucoup de questions
c'est
aussi.
Ça. Qu'est-ce qu'il fait ?
Il s'intéresse énormément, donc ça, c'est plutôt bien, parce que c'est un vrai partage. En revanche, pour l'instant, et il est petit, il n'a pas l'idée de suivre ma voie. Et puis, je crois surtout que, en tant que maman, première des choses, ce que je veux, c'est qu'il trouve sa voie et qu'il soit heureux dans ce qu'il fait. Donc, que ce soit la même que moi, si c'est son choix, je le suivrai et je l'accompagnerai. Si c'est une autre voie, je l'accompagnerai aussi. l'essentiel, c'est qu'il trouve la sienne. En tous les cas, ce que je trouve intéressant dans mon métier, c'est que ça éveille la curiosité et ça éveille la sienne.
D'accord.
Et je pense que cet esprit critique... Et cette curiosité pour les enfants, c'est essentiel à leur transmettre.
Pour finir cette interview, est-ce que tu aurais des petits conseils ? S'il y a des auditeurs qui nous... Alors, il y a plusieurs choses. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent là, qui veulent se lancer dans le monde de la presse et de la communication d'une part, est-ce que tu aurais des petits conseils à leur donner ? Et en tant que chef d'entreprise aussi, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, quelle que soit l'activité, voudrait lancer sa boîte ? Des petits tips comme ça pour ne pas faire les choses n'importe comment, essayer de passer les années et de devenir une entreprise pérenne.
Alors, c'est une sacrée question parce que je crois qu'il faut beaucoup d'humilité pour ces parcours-là. Donc, donner des conseils ou des recommandations... c'est pas à prendre à la légère. Ce que je pourrais peut-être dire, c'est soyez accompagné.
Ouais.
Faites-vous accompagner, posez des questions, prenez les bons conseils, prenez le temps de réfléchir et d'analyser ce que vous allez faire, parce que le temps est toujours de bons conseils. Donc l'accompagnement, s'entourer des bonnes personnes, oser prendre des risques.
Ouais.
Osez tenter l'aventure parce que vous en retirez de toute façon quelque chose, même si ça dure pas longtemps.
Oui.
On apprend, on rencontre, on découvre, on apprend sur soi. Donc osez l'aventure. Un petit mot peut-être aussi, c'est prendre des risques mais savoir les maîtriser.
Oui.
Donc on n'est pas une tête brûlée, mais il faut quand même y aller.
Oui.
Parce que le mode défensif ne marchera pas. Donc il faut savoir prendre des risques et les accepter. Mais quand on est accompagné et qu'on a pensé son projet et qu'on a une vision, je pense que ça peut fonctionner. En tous les cas, je le crois. Et puis, il y a peut-être un mot que j'aimerais adresser aussi aux femmes en particulier. Là encore, c'est croyez en vous, osez, relevez des défis. Soyez fiers de ce que vous êtes et je crois qu'il n'y a que de belles choses qui peuvent survenir.
Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu dans les logos de Espritcom S&D Magazine. Je te souhaite vraiment le meilleur au plan personnel et au plan professionnel. Et puis je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup Marjolaine pour cette invitation, pour ce très bel échange. Je te souhaite aussi de très belles choses.
Merci.
Et beaucoup de belles choses à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. À bientôt.
Bye bye.
Merci encore à Mélanie de m'avoir accueillie et de s'être prêtée au jeu de Slice. Comme d'habitude, vous retrouverez de plus amples informations sur le site internet du podcast www.slice-lepodcast.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien.